enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Devant toi pour te contempler et pour nous laisser transformer par toi, par ton souffle, par le souffle de ta bouche, par la parole Seigneur qui délivre et qui guérit. Oh merci Seigneur, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Nous t'aimons Jésus. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous vous êtes rendu compte que notre pasteur n'est pas présent cet avant-midi. À 7h, il doit s'apprêter à aller à Makala et il doit prêcher dans l'une de nos églises. Et nous prions que la main de Dieu puisse être avec lui, afin qu'il puisse être en bénédiction pour l'église à Makala. Il y a quelques jours, je ne me suis pas empêché de réfléchir sur un sujet que peut-être nous n'aimons pas souvent aborder. Il s'agit de la mort. J'aimerais d'entrée vous poser la question. Avez-vous déjà réfléchi qu'un jour, vous allez mourir? Jeune, vous avez 10, 15, 20 ans, ou peut-être 80 ans, je ne sais pas s'il y en a ici. À plusieurs reprises, vous vous êtes retrouvés à des deuils. Vous avez vu des amis, des frères, des sœurs, cousins, cousines, des personnes que vous avez aimées, chéries. Avez-vous réfléchi qu'un jour, la vie va vous quitter? Et avez-vous aussi pris le temps de vous dire qu'est-ce qu'il y a après? J'ai à peine la trentaine. Mais j'ai vu plusieurs mourir devant mes yeux. Et devant la mort, j'ai vu plusieurs sortes de réactions. Je me rappelle d'une femme qui, en mourant, criait « Que le juste triomphe dans la gloire !» Je me rappelle encore de cet homme qui, avant de rendre son dernier souffle, disait « Ils viennent me chercher, je rentre à la maison, là où il y a mon véritable chez moi. » Mais j'ai encore vu un membre de ma famille mourir, et il semblait qu'il se battait avec des adversaires invisibles. Il disait « Laissez-moi !» Et il disait qu'il voyait des créatures qui ne pouvaient ni décrire. Ni comprendre leur apparence. Et son dernier cri, c'était « Je brûle !» Et il est parti. Je ne me suis pas empêché, je vous ai dit en début de semaine et tout au long de celle-ci, de réfléchir sur la mort. Je me suis dit moi-même, un jour je vais passer. Est-ce demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans? Je l'ai dit encore hier soir au Seigneur, « Seigneur, quand tu auras trouvé que mon travail est fini, prends-moi. Si tu penses que c'est déjà demain, je suis prêt. » Alléluia. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Seigneur? Et ce matin, j'ai voulu que nous puissions lire deux passages qui nous montrent comment quelqu'un dans la Bible à affronter cette expérience de la mort. Hébreux chapitre 11, verset 21. Combien j'aime ce verset. Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Oh combien j'aime la suite. Et qu'il adora, appuyé sous l'extrémité de son bâton. Alléluia. Belle manière de mourir. J'aimerais aussi que vous lisiez avec moi Genèse, chapitre 47, nous partirons du verset 29e, une assez longue lecture, même du verset 28e, pourquoi pas. Genèse 47, nous partons du verset 28. Jacob vécut 17 ans dans les pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur les chevets de son lit. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai. » Et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays à ta postérité après toi, pour qu'elle les possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi dans les pays des Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je t'ai pris, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph le retira des genoux de son père, il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Joseph refusa et dit, « J'ai laissé mon fils, j'ai laissé. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il est béni ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il prit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et vous fera retourner dans les pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. » Genèse 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans les lits, il expira, il fut recueilli auprès de son peuple. Hallelujah. Belle manière de mourir. J'aime beaucoup les livres de l'Épître aux Hébreux. Et surtout son chapitre 11e. Ce chapitre nous résume les héros de la foi. Non seulement qu'il nous présente ces héros, mais ce chapitre nous montre aussi, en résumé, les œuvres extraordinaires qu'ils ont eu à faire. Mais au début, Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit, en décrivant et en définissant ce qu'est la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et la version parole vivante nous dit que la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère et une manière de les posséder déjà d'avance. Cette version dit encore, croire, c'est être absolument certain de la réalisation de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Êtes-vous un homme de foi? Et dans cette longue liste de Hébreux 11, nous voyons la foi de Noé. La Bible dit, divinement averti, il construisit l'arche, qui pouvait croire à l'époque qu'une grande pluie pouvait tomber et détruire le peuple existant sur terre à cette époque. Mais Noé a cru, alléluia, et il a construit l'arche. La véritable foi, elle est active. Par la foi, Abraham obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et la Bible dit même qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu lui dit, Abraham, sors du territoire d'Ur en Chaldée et va dans les pays que je te montrerai. Abraham ne savait pas où se trouvait cette ville. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu lui avait dit, un héros dans la foi. Et le même Abraham, la Bible nous cite encore un de ses exemples. La Bible dit, par la foi, il offrit en sacrifice Isaac, son seul et unique fils. Et cela malgré les promesses que Dieu avait faites sur cet enfant. Dieu lui avait dit, par Isaac, je te susciterai une postérité nombreuse. Mais un jour, Dieu lui dit, Abraham, va sur cette montagne et sacrifie-moi ton seul, ton unique fils que tu aimes beaucoup. Et la Bible dit qu'Abraham n'a pas cherché à comprendre. Plus loin, il est même dit, Abraham en allant offrir Isaac, il croyait que Dieu était capable de les ressusciter. Quelle foi! Oh la foi! Combien notre monde est pauvre! Parce qu'il n'y a plus d'hommes de foi. Autant quand nous regardons l'histoire, et peut-être tout ce que la science peut nous présenter, on nous dit qu'autrefois il a existé des animaux colossaux, dinosaures, brontosaures ou je ne sais quel autre, on dit, sont des races disparues. Et quelquefois je me dis, les hommes des fois aussi sont une race en voie de disparition. Que Dieu nous donne des hommes qui croient en la parole de Dieu et qui agissent. Alléluia. Des hommes comme Pierre, capables de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Parce que Dieu a dit. Et Christ a dit lui-même, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Par la foi, Moïse brava le Pharaon et il alla demander la libération de son peuple qui était esclave. Alléluia. Et remarquez, il n'avait pas une grande armée. Il n'avait pas missiles et toute autre sorte d'armure. La Bible dit qu'il n'avait à la main que la verge de l'Éternel. Et il s'est présenté devant le Pharaon. Il lui a dit, Dieu m'a dit que tu dois libérer son peuple. Alléluia. Un homme de foi. Oh Dieu, donne-nous des hommes de foi. Il a cru et il s'est avancé. L'épître hébreu nous relate encore toutes sortes de grandes œuvres qui ont été faites par la foi. Des hommes vainquirent des royaumes. Ils fermèrent la gueule de lion et ils firent des conquêtes. Mais parlant de Jacob, je m'étonne. J'aurais voulu, et je le disais hier en lisant ma Bible, que le Saint-Esprit puisse peut-être mentionner d'autres grandes œuvres que Jacob a eu à faire. J'aurais voulu que le Saint-Esprit parle de cette expérience merveilleuse à Bethel. Quand cette échelle est descendue, il touchait terre et touchait aussi le ciel, et que les anges montaient et descendaient, belle expérience. J'aurais voulu que le Saint-Esprit puisse parler de ce jour-là où, quand Jacob s'est retrouvé seul à seul avec l'ange de l'Éternel, et malgré que l'emboîture de sa hanche était cassée et brisée, il a combattu en disant, je ne te laisserai point partir, que tu m'aies béni. J'aurais voulu que le Saint-Esprit puisse le mentionner dans Hébreux 11 comme œuvre de foi. Mais permettez-moi les termes, bizarrement, le Saint-Esprit mentionne autre chose. C'est par la foi que Jacob mourant bénit le fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur un bâton. Jacob, il est vieux. Il a 147 ans. Ce n'est plus ce jeune homme ambitieux d'autrefois, calculateur et même batailleur. Jacob, il a les dos courbés par le poids de l'âge. Il a des petits yeux qui voient à peine. Il a perdu ses cheveux. Y a-t-il encore des dents dans sa bouche? Je ne pense pas. Jacob, il est fini. Il ne peut même plus se servir de ses deux jambes pour marcher. Il doit utiliser un bâton pour s'appuyer. Jacob, il sait qu'il est à la fin de sa vie et il le sent. Il sent que la vie le quitte petit à petit. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il réalise que tout ce qu'il lui reste à faire, il doit le faire vite et le faire bien. Et comme au travers d'un rétroviseur, Jacob peut revoir toute sa vie. Une vue faite de sommets élevés, mais faite aussi de vallées profondes. Une vie de haut et une vie de bas. Une vie de certitude et une vie aussi pleine de contradictions. Une vie de victoire, mais aussi une vie de défaite. Et là, à la fin de sa vie, tout redevient clair. Il n'est plus autant agité comme au jour de sa jeunesse, car quand on est jeune, on bouge, on calcule, on a des grands projets. Et je sais, dans cette salle, il y a ces deux catégories. Il y a des grands rêveurs, des jeunes, qui croient qu'ils peuvent bouger, changer le monde. Ils rêvent gros et grand. Mais je sais, il y a aussi des personnes sans projet. Tout est fini. Ils savent que le temps des rêves, le temps d'ambition colossale est passé. Ils savent qu'ils sont en train de franchir les derniers mètres de leur vie. Et vous savez, quand on arrive à la sortie, comme disaient les pasteurs le dimanche passé, on réfléchit un peu plus. N'y a-t-il pas des mamans qui, en regardant des jeunes filles qui marchent, elles peuvent dire, oh, il y a 40 ans, j'étais comme elle. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes rondes. Les rides sont là. Vous voulez conserver cette jeunesse, mais vous ne pouvez la conserver. En Occident aujourd'hui, c'est la chirurgie esthétique, lifting ou je ne sais quelle autre méthode, mais qui peut arrêter l'érosion que les temps provoquent dans le corps. Je peux voir ces papas au ventre bédonnant, qui peut voir ces jeunes hommes sveltes et athlétiques et dire aïe 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 aïe. Il y a quelques années, j'étais comme lui. Il y a quelques années. Tout passe vite, même très vite. Et Jacob voit aussi les choses de la même manière. Il peut revoir les jours où il a usurpé la bénédiction de son frère à cause d'un plat de lentilles. Jacob, là à la fin de sa vie, il revoit clairement les jours où il s'est fait passer pour son frère Ésaü, en trichant et en mentant son père pour avoir la bénédiction. Il revoit sa fuite, son errance, pour échapper à la colère d'Ésaü. Il revoit les années de dur labeur chez Laban, où il a dû travailler plusieurs années pour mériter la femme qu'il aimait. Jacob, il revoit les jours où il essayait de revenir au pays, sachant qu'il devait rencontrer les courroux de son frère Ésaü. Jacob, il ne peut s'empêcher de revoir les années de quiétude quand il est rentré et qu'il a vécu dans la prospérité et dans l'abondance. Il revoit aussi avec peine les jours où on est venu lui annoncer que cet enfant qu'il aimait beaucoup, cet enfant pour qui il avait cousu une robe de plusieurs sortes de couleurs, les jours où on est venu lui annoncer qu'il était mort, mangé, semblait-il, par des bêtes féroces. Et combien son cœur était triste. Il revoit le deuil qu'il avait porté dans son cœur à cause de cet enfant chéri. Mais il peut aussi revoir les temps des famines, mais aussi les jours où on est venu lui annoncer comme dans un rêve que Joseph était vivant. Il peut revoir les jours où il est arrivé en Égypte, où il est tombé dans les bras de Joseph. La Bible dit que quand il est vit, il se jeta à son cou. Il pleura longtemps sur son cou en disant « Que je meurs maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis encore. » Et Jacob peut revoir les jours où devant le Pharaon, il n'a pas pu s'empêcher de faire presque le résumé de sa vie en disant au Pharaon « Les jours des années de ma vie errante sont des 130 ans. » Et voilà ce qu'il a dit comme un résumé de sa vie. Ils ont été peu nombreuses et mauvais. Homme, femme, jeune homme, jeune fille, que peux-tu dire de ta vie, ce pèlerinage que Dieu t'a donné sur terre? Si Dieu permet que demain ou après-demain tu te présentes devant lui et qu'il te dise quelle a été ta vie, au service de qui ta vie était-il, qu'as-tu fait, que vas-tu lui dire? « Oh Dieu, j'étais sur terre, j'ai cherché l'argent, les titres, les positions, je vivais pour mon corps, je vivais pour la réalisation de mes projets. » Mais Joseph a dit, « Mes jours, ils ont été peu et très mauvais. » Et là, à la fin de sa vie, il semble comme, presque comme s'il y a un regret. Il semble comme si Jacob dit « Oh, si c'était à refaire, je vivrais mieux. Oh, si c'était à refaire, je serais plus honnête, plus vrai. » Bien-aimés, ce que nous sommes réellement, c'est fait voir quand nous sommes à l'approche de la mort. Hier soir, je revoyais la cassette du 31 décembre 1993. Et comme un prophète, le pasteur a dit, ici il y a dans la salle des personnes qui ne vont pas finir cette année. Et alors que je revoyais cette cassette, il y a un jeune homme qui était toujours là au premier banc, lundi passé, la trentaine, il est parti. Où? J'ignore. Moi je le voyais à l'église, nous le voyons régulier à l'église. Mais Dieu sait comment il a vécu. Et Dieu sait où il est maintenant. Homme, femme, jeune homme, jeune fille, N'est-il pas important de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir? Car éternité y a. Et Dieu ne nous a pas seulement créés pour vivre dans les temps. Il y a une éternité. Où la passeras-tu? Le psalmiste dit dans le psaume 89, verset 49, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne point voir la mort? Et Moïse ajoute dans le psaume 90, verset 9 à 10, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et au verset 12, comme une prière, Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Jacques dira dans son épître au chapitre 4, verset 14, qu'est-ce donc la vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Job, par plusieurs fois, il a dit, ma vie n'est qu'un souffle. Esaïe, lui, s'écriera au chapitre 40, versets 6 à 8, « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alléluia. Tôt le matin, vous vous levez, et vous courez vers la vie. Vous voulez atteindre les sommets de la vie, quelquefois même en marchant sur les autres, en marchant sur les principes moraux. Que des hommes qui ont bâti leur fortune sur le sang des autres. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est un peu cela la doctrine qu'Ésaü avait. Ésaü ne voyait que le présent. Il est venu demander à son frère Jacob, j'ai faim, je viens du champ, je suis fatigué, donne-moi quelque chose à manger. Jacob a dit non, je ne te donnerai rien si seulement tu me donnes les droits d'aînesse. Jacob, lui, voulait les choses éternelles, les choses qui subsistent, mais peut-être il a utilisé une mauvaise manière pour les avoir. Et Esaü a dit, que m'importe les droits d'aînesse? Ce que je veux, c'est satisfaire mon ventre. Pour lui, c'est le présent qui compte. Demain, qu'importe. Et les hommes disent, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Oui, vous mourrez certainement. Mais où allez-vous passer votre éternité? J'ai entendu l'histoire d'un homme qui était un libre penseur, pour mieux dire, athée. Toute sa vie, il a milité dans ces mouvements. Il était professeur d'université aux États-Unis. Durant plusieurs années, il a enseigné l'athéisme. Et là, à l'université, il a eu un jeune homme qui a grandi dans une famille chrétienne. Et ce jeune homme est venu à 20 ans. Durant 4 ans, il a eu cet homme comme professeur. Et cet homme maîtrisait ses convictions. C'est le genre d'homme, si vous vous mettez en face, il remet en question toutes vos convictions, le mieux bâti. Et durant 4 ans, il a fait un lavage des cerveaux dans la tête de ces jeunes hommes. Il a dit, Dieu n'existait pas. Avec les genres de syllogisme, si Dieu existe, vous connaissez comme les gens aiment réfléchir. Or, puisque, donc. Et ces jeunes hommes, petit à petit, s'est laissé infecter. Il est devenu aussi un disciple avec comme thème « Dieu n'existait pas ». Les années se sont passées, 30 ans, ce jeune homme a cru et il partageait même sa conviction. Il est devenu avocat. Et un soir, il s'est déplacé d'une ville à une autre. Le lendemain, il devait plaider. Mais voilà, la nuit, il a été surpris par l'orage. Il semble que c'était aux alentours de 20h, 21h. Et il a cherché une auberge où s'abriter. Oh, combien Dieu sait faire les choses. Et rentré dans cette auberge, tout était pris, il n'y avait plus de chambre disponible. Alors on l'a placé là dans la cave. Il a demandé une couverture qui lui a été donnée. Et il s'est endormi. Mais voilà, toute la nuit il n'a pas pu dormir, car il attendait quelqu'un crier. Et il semble que cet homme en criant, il souffrait terriblement. Cet homme criait, il disait qu'il souffrait. Mais chacun de ses cris était ponctué à la fin par une petite prière. « Oh Dieu, pardonne-moi. » Il criait encore de plus belle. « Oh Dieu, pardonne-moi. » Et cela a continué jusqu'aux petites heures du matin. Vers 5h, 6h, ce jeune homme a entendu un dernier grand cri. « Dieu, pardonne-moi. » Il y a eu un silence. Il a pu s'endormir. Vers 7h, 8h, il est allé voir l'aubergiste. Il a dit « Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et alors qu'il parlait, il y a une civière qui passait. L'aubergiste lui a dit « Cet homme a rendu l'âme cette nuit. Il souffrait d'un terrible cancer. Il était juste de passage pour aller voir un spécialiste. Et le temps que la civière puisse arriver devant lui, il a reconnu son professeur. » Pas de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. J'étais allé un jour apporter la parole de Dieu à un général d'armée. Et alors que je lui parlais de Christ, il était entouré de ses militaires. Il était très malade et très souffrant. Je lui ai dit, « Papa, vous devez accepter le Seigneur. Il vous aime. Il est mort pour vous. Car vous allez mourir. » Je lui ai dit, avant de rentrer dans la parcelle, j'ai vu des militaires, des gardes. Et j'ai vu une grande armure comme si nous étions en guerre. Et là, alors que je vous parle, je vois encore des militaires tout autour de vous. Mais j'aimerais vous dire, si la mort vient, et ceux qui sont à la porte, et ceux-ci, ils ne pourront ni l'arrêter, ni le combattre. Alléluia. Oh, nous pouvons être gardés du pillage. Mais quand la mort vient, qui peut l'arrêter? Hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles, préparons-nous à la rencontre de ces dieux. Le sage a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Plusieurs fois, je l'ai dit au début, nous allons à des endroits de deuil. Nous voyons les autres mourir. Et nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, de réfléchir. Il y a quelques jours, j'ai parlé à un jeune homme de 33 ans, séropositif depuis 86. Il m'a montré son corps meurtri et me dit, je sens la vie me quitter. Il avait un corps marqué par la maladie, mais bizarrement, il y avait un petit rayon de lumière. Sur son visage, il y avait un sourire. Il m'a dit, il y a une année, j'ai pris la bonne décision. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelques années, nous sommes allés dans les Bazaïres vers Kazangoulou. Et là, le bus est tombé en panne. Comme par hasard, nous sommes descendus. Et vous savez, sous la route des Bazaïres, il y a des tombeaux un peu partout. Et nous sommes tombés sur une tombe bien faite, avec une belle photo d'une jeune fille. Vous savez, les gens mettent toujours la date de naissance et la fin. Et en essayant d'évaluer, elle est morte à 25 ans. Je ne sais pas si c'est elle ou sa famille qui a fait écrire ces mots en épitaphe. Il était écrit ceci. Ce que vous êtes, je l'étais. Et ce que je suis devenu, vous le deviendrez. Je vous assure, quand nous sommes arrivés là devant, ceux qui avaient le Seigneur ont regardé, ils ont dit Alléluia. Et ceux qui n'avaient pas le Seigneur, j'ai vu certains tourner la tête rapidement. Cette jeune fille morte leur disait, beau, belle, élégant, élégante, je l'étais. Mais ce que je suis devenu, que vous le vouliez ou non, vous le deviendrez. Quelle interpellation. Les sages aussi ont parlé aux jeunes gens, car souvent nous croyons que la mort ne touche que les vieilles personnes. Jeune homme, réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela,
Dieu t'appellera en jugement. Quand? Je ne sais pas, mais lui il sait. Et souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Peut-être que vous allez dire, j'ai tellement fait de mauvaises choses qu'il m'est difficile de revenir. Non. La Bible a dit, et c'est Christ qui parle, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et il dit encore, si vos péchés sont rouges, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. S'ils sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Il y a espoir. Car le sang de Golgotha peut encore laver. Il y a espoir de bien recommencer avec Christ quand on a mal commencé. Et Jacob, lui aussi, avait mal commencé. Mais il a eu le temps de rectifier l'angle. Et le voilà à la fin de sa vie. Il sait que sa vie est finie. Et là devant lui, il a le premier ministre en Égypte. Et il a aussi deux petits-enfants qui sont des princes. Il est vieux. Qu'est-ce qui peut encore sortir de bon de cette vieille personne? Qu'est-ce qu'il peut donner en héritage à Joseph, premier ministre, et à ses deux fils des princes? Jacob n'avait rien de matériel à leur donner, car sur le plan matériel et financier, ils étaient plus forts que lui. Mais Jacob dit, j'ai une chose que vous n'avez pas. Alléluia. Oh, j'ai hérité de mes pères la bénédiction. Cette promesse qu'Abraham avait reçue de Dieu, il a passé à Isaac. Et avant de mourir, Isaac me l'a passé. Vous avez des richesses, vous avez des maisons et bien des choses, mais ce que j'ai, vous n'avez pas. Et il fait appeler Joseph. Et Joseph amène ses deux enfants. La Bible dit, Éphraïm a été placé à sa gauche, le deuxième né, et Manassé à sa droite. Joseph savait très bien qu'on devait bénir l'aîné, Manassé, avec la main droite, car la bénédiction de la main droite, c'est la bénédiction de l'aîné, celle qui découle d'Isaac, d'Abraham et d'Isaac. Mais aussi, Éphraïm aussi avait droit à la bénédiction. Mais voilà, subitement, Jacob croise ses mains. Il place la main droite sur Éphraïm et la main gauche sur Manassé. Alors là, Joseph s'est dit, ça y est, la vieillesse a détruit un peu même la cervelle. Il ne comprend plus rien. La Bible dit, Joseph vit avec déplaisir ce que faisait son père. Et il est venu, il a pris les mains de Jacob, il a voulu écarter. Jacob lui a dit, je suis vieux, c'est vrai. Mes yeux physiques ne voient plus bien, mais mes yeux spirituels voient encore clair. Mes oreilles entendent à peine, mais je puis encore entendre ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit, donne à Éphraïm la bénédiction du premier-né et à Manassé la bénédiction du second. Alléluia. Et il a béni non seulement Joseph, il a béni aussi Éphraïm et Manassé. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Et ça, c'est le plus bel exemple de foi. En le bénissant, il leur a dit, je vous fais héritier du territoire des Canaan. Jacob est-il détenteur, détient-il les titres fonciers du territoire de Canaan? Oui! Détient-il ces territoires? Non! Oui, non! Oui, car par la foi, bien que ces territoires étaient habités par des étrangers, il savait que Dieu les lui avait donnés. Ce que nous possédons réellement, c'est ce que nous possédons par la foi. Et ce que nous possédons par la foi, personne ne peut nous l'arracher. Il sait qu'il y a encore des étrangers sur ce territoire, mais Dieu avait dit. Il leur dit, je vous donne cette richesse. que ni Pharaon et ni les richesses d'Égypte ne peuvent vous donner. Quel exemple de foi! Et Jacob, après avoir béni, s'est appuyé sur son bâton. Joseph et ses frères et les deux fils de Joseph ont été témoins de l'adoration qui est sortie de la bouche de cette vieille personne. Et ils ont su qu'il a marché avec Dieu. Oh, combien je puis m'imaginer que ses enfants ont été marqués par cette image. Ça a été le plus bel héritage qu'il a transmis à ses enfants. En leur disant, appuyez-vous sur Dieu comme je m'appuie sur ces bâtons. Sans ces bâtons, je tombe. Et sans Dieu, vous n'irez pas loin. Et Hébreux 11 dit, les héros de la foi, quoique morts, ils parlent encore. Hommes, femmes, demain, vous allez passer. Et je vais passer aussi. Qu'allez-vous laisser sur terre? Qu'allez-vous laisser à votre progéniture? Est-ce ces comptes en banque seulement? Est-ce ces villas, ces voitures, ces costumes qui remplissent vos garde-robes? Est-ce votre nom qui peut ouvrir toutes les portes? Jacob, elle leur a donné la meilleure part. La connaissance de Dieu. Alléluia. Et Paul, en mourant, s'est écrié, je sers déjà des libations et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adorant le Seigneur, appuyé sur un bâton. Si Christ tarde à venir, peut-être que je vivrai encore longtemps. Peut-être que je deviendrai une vieille personne. Partirai-je avant mon épouse? Je ne sais pas. Partira-t-elle avant moi? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je suis prêt. Que cela arrive à la fin de ces cultes. Que cela arrive demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Dès aujourd'hui, je suis prêt. Et je sais ce jour-là quand je me présenterai devant lui. Je serai au garde à vous. Je lui dirai, commandant en chef, pour toi j'ai travaillé et j'ai tout fini. Fais de moi ce que tu veux. Baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous parle au Seigneur un moment. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse un moment sur sa vie. Si tu mourrais aujourd'hui, que vas-tu léguer aux générations futures? Si demain, après-demain, tu dois te présenter devant Dieu et qu'il te pose la question, à quoi a servi ta vie? Que vas-tu lui dire? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi. Car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci.
enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.